Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chronique Astragal. Je suis Céline. Pour cet épisode hors les murs, nous allons à la rencontre d'une artiste pluridisciplinaire, Victoire Ehouzan. De l'art déco en passant par l'écriture et par la photographie où elle excelle. Elle va nous parler un petit peu de son travail au niveau de la mémoire. Ce n'est ni aux Pays-Bas, ni en Italie ou encore à Paris que nous allons la rencontrer, mais à la galerie Faces. Bonjour Victoire, merci d'être avec nous sur Tête Astragale hors les murs. On est ici à la galerie Faces. On va un petit peu parler de tout ça dans l'émission. Donc, encore bienvenue. Avant de parler de toi plus précisément, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu hybride qui est à la galerie Faces?
Je suis très contente qu'on se parle autour de ce micro pour Astragal. Alors, la galerie, c'est une galerie qui a presque 2 ans. On aura 2 ans en mars.
Mars.
Exactement. Et c'est un lieu qu'on a voulu... Vraiment facile, chaleureux dans de l'échange et pour que les gens viennent aussi accéder à l'art tout le temps, que plus personne n'ait peur de rentrer dans une galerie et que ce soit vraiment un lieu voilà, ouvert.
Rendre l'art accessible.
Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un café, parce que tout ça pour un peu réchauffer le cœur et les âmes autour de l'art aussi, pour qu'on, voilà, qu'on ait vraiment la sensation d'être un peu comme à la maison, sur un lieu qui soit vraiment convivial, chaleureux et accueillant. Ça, c'est devenu depuis peu, on a vraiment envie que cet endroit soit un immeuble dédié à la photographie, sous toutes ses formes, j'allais dire. Le rez-de-chaussée donc, est vraiment un endroit, un café-galerie, il est hyper chaleureux. Au premier étage, on a ce partenariat avec WePresence pour l'instant, qui est la plateforme artistique de WeTransfer. Où on expose plutôt des artistes internationaux. Et l'idée était vraiment de faire rayonner aussi Marseille, parce qu'il y a aussi cette idée de on ne voulait pas directement concurrencer les galeries à Paris, mais donc on soit, voilà, vraiment, on va ouvrir bientôt des cours de photo, etc. Donc il y a vraiment tout ce qui est autour de la pratique de la photo. Et d'ailleurs, on ne fait vraiment que de la photo. Au départ, quand on a ouvert la galerie, on avait présenté de la peinture, du dessin, et on a vraiment voulu se concentrer sur le médium photographique, ce qui, à notre sens, manquait un peu à ce moment-là à Marseille, et voilà, de donner vraiment une place qu'il mérite, enfin, que ce médium mérite à Marseille.
Ok, et toi, du coup, dans la galerie, ton rôle, c'est quoi ?
Moi, mon rôle, je m'occupe de la curation, de la production des expositions, et donc du suivi avec les artistes.
Ok.
Moi, au départ, je suis photographe et en fait, j'ai voulu prendre ce poste-là, on va dire, ces tâches-là à la galerie parce que j'ai vraiment envie que les photographes à qui je m'adresse, on parle la même langue, qu'on se parle de la même chose, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue plus sensible, artistique et même logistique, voire même, j'allais dire, psychologique. En vrai, moi, j'ai vraiment envie d'être là comme un soutien et un accompagnement pour les photographes, parce que vraiment, on parle la même langue. Moi, je protège et soutiens leurs intérêts autant que ceux de la galerie. Donc, j'estime vraiment faire un tampon entre la partie galerie, marchand d'art, tout ça, et les artistes qui ont besoin bah, parfois d'un cadre pour venir justement rentrer dans ce monde-là.
Trouver un équilibre, ça va mettre à l'aise peut-être les artistes qui sont un peu moins conventionnels.
Exactement. Ouais, ou qui n'ont pas encore eu l'habitude d'exposer, parce qu'on est aussi là pour, bien qu'on se tourne aussi vers l'international avec des expos d'envergure là, comme celle de Mouflam Rabat, on est aussi, on soutient aussi des artistes qui pour l'instant n'ont pas exposé et ont exposé pour la première fois chez nous. Et c'est un vrai intérêt pour nous de le faire, parce que voilà, on laisse aussi cette place. Le lieu, il a été aussi créé pour ça. C'est qu'il y avait assez peu d'endroits de qualité pour exposer de la photographie.
De Marseille ?
Pas que. Non, mais il y a toujours un lien avec Marseille quand même. Soit c'est parce qu'ils y vivent, soit c'est parce qu'ils ont fait un travail dessus, ou qu'il y a un attachement particulier. On essaie quand même d'avoir un dialogue avec Marseille. C'est pas systématique, mais souvent.
Et qu'il y a un dialogue avec la ville, quelque chose, une petite attache. Donc, bon, voilà, ce lieu, on l'a compris, il est maintenant, il devient de plus en plus incontournable au final, sur le côté artistique, sur Marseille et la photo. Et vraiment, bravo pour l'initiative, parce qu'on a besoin de ça. De cette accessibilité-là à l'art,
que ce soit pas, qu'on se dise pas que c'est réservé à une certaine catégorie sociale. Et ça, c'est vraiment important d'appuyer sur ce point-là. Mais tu disais donc que tu étais photographe. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours? Parce que c'est passé par les Pays-Bas, puis le lit, c'est la France. Est-ce que tu peux nous parler plus de toi au niveau artistique déjà?
Moi, je viens de la photo. C'est mon métier, c'est la formation. Donc, j'ai fait mes études à Paris, aux arts décoratifs. D'abord à Olivier de Serres en graphisme, puis le graphisme a un petit peu son importance dans mon métier. Et ensuite aux arts déco. Et les arts déco, quand je suis partie en échange ensuite en Erasmus à Amsterdam, à la Rietveld. Et je suis tombée un peu amoureuse d'Amsterdam et je devais rester 6 mois, je suis restée 4 ans.
Oui,
voilà. Bon. C'est dit donc c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à travailler d'un point de vue artistique. J'ai pas mal exposé à ce moment-là. À la fin de mes études, j'ai gagné des prix, j'ai exposé au salon de la photo qui s'appelle Haute Photographie à Rotterdam. J'ai été sélectionnée dans leur livre et tout, des trucs comme ça. Et j'avais été aussi sélectionnée juste avant au European Photography Awards.
Yeah.
Qui se tient, c'est un concours inter-école d'art des écoles en Europe et qui se tient en Italie. Donc, j'ai exposé ma première exposition, c'était à Modène en Italie, qui était assez chouette, qui m'a un peu donné un petit élan quand même sur mon travail par la suite. Et puis, donc j'ai passé ensuite 7 ans à Paris, 4 à Amsterdam, et puis je suis revenue à Marseille il y a 4 ans, dans ma ville dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai grandi, que j'ai fui à un moment donné, je l'assume complètement de le dire, mais que je suis revenue la chercher en courant il y a 4 ans, après la fin de mes études, que j'avais commencé à travailler un petit peu à ce moment-là.
across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna bring it tonight. Ooh, I'm gonna bring it tonight. Oh, I'm gonna bring it tonight. Ooh, I'm gonna bring it tonight. Oh, bring it tonight.
The foulest stench is in the air. The funk of 40,000 years and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller.
Moi, je connais un peu ton travail et je sais que l'écriture a quand même son rôle dans de voir les choses. Donc, dans ta tête, quand tu es partie sur la photo, c'est quoi ? C'est d'abord l'écriture qui t'a mené à la photo, parce que je sais que tu fais des carnets. Tu travailles beaucoup comme ça au départ sur carnet. Moi, bon, j'admire parce que je ne sais pas dessiner. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, est-ce que c'est par là, en fait, hein, par le, voilà, comme tu disais, le graphisme, l'écriture, etc., que tu es parti sur la photo ou inversement, quoi ?
En fait, exactement. C'est venu de la photo, c'est du dessin. Et je me rappelle d'avoir parlé à Rodrigo et on a eu la même réflexion. On est dessinateur flemmard, mais c'est quand même plus rapide de faire une photo que de dessiner. Mais c'est vraiment venu du dessin et de fait aussi un peu en fait l'écriture, la narration. En fait, pour revenir sur mon parcours, c'est là que je te dis que j'avais fait une école de graphisme avant. C'est que j'avais fait une école de graphisme parce que je n'avais pas été pris dans une école de photo. Et que je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais aller dans le graphisme. Et de toute façon, tous les projets que je vais faire en photo. Et puis, je remettrai bien un petit coup de graphisme par-dessus et ça ira. En fait, c'est ce que j'ai fait. Et donc dans ces projets-là, il fallait un peu illustrer les photographies. Et donc, c'est là qu'est venu le texte. En fait, il est venu quasiment par des affiches, des couvertures de livres, de l'article, de la mise en page, la narration. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, que la narration a tout le temps été là dans mon travail.
Centre de ton travail.
Ouais, ce que j'en avais vraiment pas conscience. Et je suis retombée sur des projets que j'avais fait à l'école où il fallait décrire. Je me rappelle d'un projet, il fallait qu'on décrive le thème. C'était un samedi soir, je sais pas où, il fallait trouver un endroit. Bref, et en fait, la photo était naturellement venue, mais en plus de ça, j'avais écrit tout un espace de fil rouge avec du texte et qui venait comme ça raconter un peu plus que ce que la photo dit. Et en fait, le texte, je le prends vraiment comme ça. Moi, la narration, pour moi, l'écriture, ça vient ajouter quelque chose à la photo, mais pas de l'ordre de la légende. C'est vraiment un dialogue qui se crée entre les textes et les photos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes séries les plus récentes, c'est un texte rouge que je viens directement apposer sur la photo et qui, pour moi, vient vraiment créer une troisième image mentale quasiment entre la première image de la photo, la deuxième image du texte, les deux combinées, elles viennent refaire une troisième image, en fait. Et c'est un peu ça que je cherche, en tout cas dans mon travail, à venir faire sortir des émotions, des sensations, de l'ordre de ce qui est un peu impalpable. Et ouais, la sensation, c'est un bon mot, je crois.
J'ai vu aussi qu'il y a aussi un peu dans tes projets ce un peu l'intime, la mémoire. Donc, c'est quoi qui t'inspire, qui te fait prendre partir sur un projet ?
Alors, souvent, les projets, je fais des photos. En fait, je fais tout le temps des photos. Et puis, je les laisse un peu Je les laisse un peu reposer. Je les laisse un peu dans mon antichambre, un peu comme dans ma dark room, quoi, dans ma chambre rouge. Et puis, j'attends qu'elles mûrissent un peu. Et puis ensuite, je retombe dessus. Et en fait, en relisant ces photos, en les re-regardant, assez rapidement, je me rappelle des moments dans lesquels je les ai prises. Yeah. Et en fait, ça se combine avec aussi quelque chose que je fais pendant que je prends les photos. Souvent, pendant que je prends les photos, je m'enregistre. Enfin, j'enregistre à l'oral ou alors je au dactylographie, là, au pen, quoi. Et j'écris des textes que, pareil, je relis pas du tout tout de suite, que je réécoute pas tout de suite. Et une fois que je suis allée un peu, pas forcément au bout de ce projet-là, mais en tout cas que je l'ai laissé un peu passer, je reviens dessus. Et là, je retravaille un peu le texte par rapport au, je resélectionne les images et j'essaie de recréer comme ça quelque chose d'un univers. Mais en fait, globalement, mon travail, il fonctionne. Enfin, je fais en sorte d'enregistrer et d'emmagasiner le temps présent parce que je trouve que c'est le seul qu'on vit réellement et que pour moi hyper important dans son enregistrement et dans la captation de celui-ci pour le garder pour plus tard. Il y a 10 ans, j'ai perdu mon papa et j'ai fait un... À ce moment-là, je suis partie pour aussi un peu essayer de faire ce deuil. Je suis partie dans les montagnes avec mon frère et ma maman. Et après, je l'ai continué seule, mais on est allé marcher tout autour du Mont-Blanc. On a fait le PMB, donc le tour du Mont-Blanc. Et j'avais cette montagne qui était à côté de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où qu'on aille, en fait, tu fais vraiment le tour. Donc, tu vois toutes les facettes. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, cette montagne, elle nous avait un peu guéri, au sens que ça représentait, finalement, elle était devenue un peu la personnification de mon papa, qui était cette montagne, cette force qui était toujours là, en fait, toujours présente. Et que quoi qu'il arrive, quelles que soient les façades et les passages que tu prends, en fait, tu vois toujours un bout de cette montagne. Je suis un livre là-dessus. Et c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai commencé à utiliser l'écriture comme, qui soit à part entière dans mon travail. Parce que j'avais besoin de décrire ça au-delà que des portraits de montagne. J'ai fait des portraits de montagne, mais j'avais besoin d'aller un peu expliquer un peu plus loin pourquoi ces portraits.
Oui, ta démarche.
Exactement. Et du coup, j'avais en même temps le truc de me dire bon, ben voilà, là maintenant, il y a quelque chose qui m'a échappé dans la vie, ben, c'est mon papa. Et donc, j'ai eu un peu cette obsession d'aller venir un peu enregistrer tous les souvenirs que j'étais en train de créer pour vraiment les garder. Et de nouveau, j'ai un peu ça avec mes filles aujourd'hui. J'ai 2 petites filles jumelles. Qui ont 2 ans et demi.
Ouais, justement, j'allais venir à ce sujet-là.
Et du coup, je le fais, je l'ai notamment fait cet été où elles ont 2 ans, enfin, elles avaient 2 ans, un peu plus de 2 ans à cet été-là. Et moi, je me souviens qu'à 2 ans, c'est la période où j'ai commencé à avoir des souvenirs. J'ai des souvenirs qui vont jusqu'à mes 2 ans, parce que c'est l'été où j'ai perdu mon grand-père. Et je m'en souviens. Je me souviens de mon grand-père physiquement, je me souviens de pas beaucoup de moments, mais je m'en souviens assez bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'elles se souviendront de ce premier été-là et qu'est-ce qui fait que, voilà, on va venir créer des souvenirs. Et voilà, j'attache une importance particulière au fait de, voilà, de vraiment d'enregistrer le temps présent et de peut-être un peu par nostalgie aussi, en fait, à la fin, mais de me dire que ces moments-là... Il est enregistré quelque part. Il n'est pas que dans mon cerveau. Et en fait, d'avoir des images en plus, je trouve que les souvenirs, ils vivent d'autant plus fort. En fait, à travers les images. Ce que je disais, c'est que moi, je me souviens parfaitement de toutes les photos que j'ai prises. Mais au moment où je les ai prises, je me souviens très bien de j'ai fait des images cet été d'un lever de soleil. On est parti en bateau jusqu'à on a fait un peu toutes les îles, j'allais dire marseillaises et du méditerranéenne et de la France, quoi. Et je me souviens très bien de chaque photo que j'ai prise, de chaque sensation, de me dire, j'étais vraiment émerveillée de voir un lever de soleil. Je suis pas du tout du matin, donc j'en ai vu assez peu dans ma vie. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper beau. Et on était tous les deux avec mon amoureux sur le bateau. Les filles dormaient encore dans le bateau et on est partis, on a mis les voiles et on est partis comme ça de Marseille sur un lever de soleil. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une poésie assez rare. Et j'ai pris une photo de ça, et cette photo, je m'en souviens très bien, mais aussi parce que je me souviens du moment et de ce que ça m'a procuré. Et le texte, en fait, la narration, j'ai d'ailleurs écrit tout un texte assez long sur cette période-là, ce camotage à la voile cet été. Voilà, pour venir comme ça m'imprégner. Et puis, il y a aussi quelque chose dans l'écriture, c'est que quand on le sort, quand on l'exprime, je trouve que ça devient tout de suite un peu plus vivant. Et puis surtout, ça mettre des mots à l'écrit, ça leur donne, je crois, tout de suite une force qui n'est pas la même que juste quand on y pense ou quand on le dit à l'oral.
Super, c'est super intéressant ta façon d'aborder les choses. Tu as partiellement répondu à la question que j'avais envie de te poser, c'est que depuis l'arrivée des filles, justement, outre la logistique, où on essaiera d'en parler tout à l'heure, justement sur le côté artistique, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vision artistique, le fait d'être devenue mère? Est-ce que ça t'a donné envie d'aller vers des endroits ou des réflexions où tu n'y étais jamais partie? Est-ce que ça t'a...
Alors, je dirais que ça a renforcé l'idée de justement l'enregistrement de souvenirs. Et alors, je fais des photos différemment. Première raison qui est que j'ai moins le temps d'en faire et que deux enfants, ça prend du temps. Et donc, c'est assez OK avec ça. Et ça m'a donné, en tout cas, la capacité d'apprécier le temps présent différemment, mais pour plein de raisons différentes. J'ai quelque chose de l'ordre qui est très basique et matériel. Je fais hyper attention quand je suis avec les filles d'être vraiment là avec elles, de ne pas avoir mon téléphone, de ne pas être en train de moitié à moitié en train de travailler, de vraiment la présence que j'ai avec elles. Et leur père fait pareil. On essaie d'être vraiment à 100% là avec elles. Aussi pour, je pense, pour elles aussi, pour qu'elles se construisent avec des adultes avec qui elles sont en dialogue et pas juste des espèces d'interludes intercalées d'autres choses. Ce qui me fait aussi basculer donc du coup sur plutôt ma pratique de la photo où elle est beaucoup plus réduite, mais en revanche quand je la fais elle est beaucoup plus intense. Voilà, donc il y a en fait c'est plutôt un décalage d'intensité. Je pense là où avant c'était plutôt lissé sur des temps plus longs, là j'ai assez souvent des moments je reviens de Corse, là on était cet hiver là, après les fêtes, et j'ai eu quelques passages où notamment une matinée hyper tôt, il y avait une énorme brume, enfin c'est très très beau, on aurait dit qu'on était complètement ailleurs, enfin il y avait ce sentiment d'insularité aussi, de un peu d'isolation, enfin qui était très, j'en parle de manière très confuse, mais parce que j'ai pas encore retravaillé les photos ni le texte, mais en tout cas j'ai écrit quelque chose là-dessus, et donc voilà, c'est plutôt je ressens des envies et des besoins d'aller à un moment donné photographier des choses quand il y a je crois que j'aime de plus en plus les lumières d'hiver aussi, où il y a un temps qui change assez vite, qui est d'un coup assez nuageux, un peu sombre, et puis avec des percées de soleil, donc il y a ce mélange-là. J'aime beaucoup Amsterdam, cette météorologie-là, ce climat-là que j'aime bien. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça a déplacé l'intensité dans des moments. Et je mets un point d'honneur à essayer de garder des moments dans mon emploi du temps qui est un peu chargé. J'essaie de le faire toutes les semaines, mais c'est pas vrai, j'arrive pas toutes les semaines. J'arrive une fois sur deux, on va dire à peu près. Je me prends vraiment une après-midi où j'essaie de quitter mon ordinateur, mon téléphone. Alors, mon téléphone dans le sens communication externe, parce que c'est quand même un outil sur lequel j'écris. Du coup. Mais j'essaie d'avoir ce moment-là. Pour moi, en fait, aussi, en tant aussi qu'artiste, en tant que personne, et aussi en tant que femme qui n'est pas mère à ce moment-là, mais qui est une femme et une personne.
Oui, c'est à part entière, quoi. C'est ça, la logistique, quand on devient maman, c'est compliqué. Quand on a un travail prenant comme celui-là, c'est compliqué, donc, de t'accorder ces parenthèses-là. Sur Astragal, on demande toujours à nos invités le rapport avec la musique. Tu vois, donc, toi, ton rapport à la musique, alors peut-être dans le perso, ou est-ce que dans l'artistique, ça t'aide? Est-ce que dans l'écriture, ça t'aide?
Alors, j'avais dit dans l'artistique, pas tant que ça, parce que j'ai pas de projet particulièrement sur la musique. En revanche, personnellement, C'est un vrai moteur. J'écoute tout le temps, elle me dit. Quand je travaille, quand je me déplace, quand je suis en voiture, quand je suis dehors, quand je pars faire mes photos, souvent, j'ai quand même un peu de mouvement. Non, non, non. Je fais de la danse aussi. Il y a quand même, j'ai ce besoin de mouvement et de me mouvoir sur de la musique. Chez nous, avec les petites, le week-end, le matin, la musique à fond et on danse, quoi. Enfin, tous les quatre, vraiment, c'est la musique est très, très importante pour moi. Mais vraiment, d'un point de vue, j'allais dire, de ma personnalité et mon caractère, je pense. J'écoute tout un tas de choses, d'ailleurs, plein de choses différentes. Honnêtement, j'écoute vraiment de tout. J'écoute des choses très, très classiques. Pour travailler, je travaille plutôt avec des choses plus classiques, mais quasiment de la musique classique.
Un exemple.
Et alors, notamment, je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur un remix de Mozart et de Tiliassini. Qui est juste extraordinaire pour travailler. C'est vraiment, c'est, je me mets en boucle, le truc dure 4 minutes, mais il peut me durer 16. Je me mets en boucle, c'est assez captivant pour travailler. Et puis après, sur danser, j'ai plutôt dansé sur des choses. En ce moment, c'est plutôt des choses qui se rapprochent de la house. On danse beaucoup sur Tilassine en ce moment à la danse, et j'avoue que c'est très, très inspirant. J'ai adoré Michael Jackson, je pense que je me suis construite à l'adolescence sur la musique de Michael Jackson. Je connais toutes les chorés par cœur. Et en même temps aussi beaucoup le rap. Je pense que le rap marseillais, le premier album que j'ai acheté de ma vie, je devais avoir 12 ans, c'était un album de la Funky Family qui s'appelle Art de Rue, qui je pense aujourd'hui est toujours mon album préféré de rap. On a recroisé un des gars de la bande, Laura Luciano, par hasard dans la rue, c'était hyper rigolo. C'était assez cool de croiser comme ça ses idoles de l'enfance. Voilà.
98 pour la FF, toujours les mêmes envies. Tout le monde s'est dit, putain, je rêve de ça si la vie me l'offrait. J'aurais sûrement moins de mecs à coffrer. Tu sais, la nuit c'est différent. Moins de regards souriants. Avec nos vies de chien, y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en pompe, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer. Sauf les gueules des bouffons sur les pays. Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde. Pas de modèle, on essaie tous de se faire une place. Si Dieu veut, nous aussi un jour on sera en... La nuit les yeux sont braqués, poursuivis par la bac et faut marquer des points pour l'amour du risque. Aujourd'hui c'est clair, la vie c'est risqué. À tous les coins de rue y'a un flic planqué. Les jeunes n'ont plus rien à foutre, pensent à estanquer. Le soir les loups sortent de leur tanière, on le visse la manière, partent en balade. Un BM, y'a pas de salade, un bon plan de magasin de sport, c'est parti pour la cascade. Une patrouille de sécurité veille, le coup se fera plus tard. Pour l'instant ça bombarde à la dardar. Motus, mission, faut exploser des radars. 220 sur l'autoroute, même pas le cafard. J'irais plutôt qu'ils se marrent en fumant des pétards. C'est l'heure de se rassasier, direction le centre-ville sur le chemin, quelques belles filles. Il paraît qu'avoir une grosse voiture ça les attire. Tire le frein à même pour le délire. Dans l'action un petit sourire. Pour savoir s'il y a bon, y'a pas pire. Que des sans pitié partis pour un fou rire. Bien, mais elles doivent partir et eux ont un travail à faire. Ils doivent manger, ça leur donnera des forces pour le danger d'entrer. Les fauves veulent tous saccager, brûle des feux, ça va mal se passer. Les flics vont les obliger de se ranger, rien à perdre. Ils veulent leur échapper, pas moyen de les tromper. Serré trop près, appuie sur le champignon pour pas se faire attraper. Encapé, l'entrée d'autoroute la plus près, pas de chance, un barrage ça met la rage. Plus de magasins de sport, la nuit au poste, l'amour du risque, gars, dans un monde critique. Avec nos vies de chien, y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer. Sauf les gueules des bouffons sur les pieds. De même que mes potes, je vois toutes mes yeux rouges sang. Le décor douche sort et louche comme mes gars, faut pas que je bouge sans. La nuit, le monde change, Dieu, et nous on zone sans enjeu. Je suis aux anges en disant que je viens de là où les gens sont dangereux. Entre amoureux du risque, on se comprend. Avant que tu risques, je dis, personne en classe l'apprend. Sans gêne ni gère la nuit, on nuit aux jambes, petit commando. Chacun se dit l'argent, faut que j'en mange comme Belmondo ou Jean-Paul Gaultier. Plus rien à foutre, mec, tant qu'il y a le pactole, nique tout. Y'a pas que toi qui lutte dans le béton. Bien dans le coma, l'ami des mômes où ils crament, tout comme à Singapour ou Miami.
Une fois la lune pleine, tous pleins d'alcool. Méga déconne, décolle, coince, déconne. Anticonne des depuis l'école. Au QG en scole, des feuilles fument, puis certaines des filles parlent col. En gros, on dit non, baise, on picole.
Chaque quartier compte son QG, ses tripots, ses jeunes en mandat dépôt, les nerfs à fleur de peau, le manque de peau. On connaît le topo ici-bas, on y est habitué. Comme ces hommes en la Bible qui tuaient se font innocenter après ça. Dur d'avoir foi en la justice, on s'enliste tel le Titanic. La misère se répand de façon titanesque. Dis-toi que ce qui m'arrive, je l'ai pas choisi, rester docile. Non mais tu veux pas que je me laisse baiser aussi ici. Pour les parents y'a vraiment de quoi s'en faire. Même les jeunes les plus braves ont tous leur santé en enfer. On représente pour l'envers du décor. Je rappe au nom des miens et des demain je continuerai encore. Ça rapporte pas des masses j'avoue, je fais ça par amour du risque. On reste les mêmes dans la vie comme sur disque. Au micro on lâche le grand jeu, le peps. Je prends conscience de l'enjeu, c'est fuir ma vie de kleps. Avec nos vies de chiens, y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer sauf
les gueules des bouffons sur les pays.
Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste peut-être brûlés à la conquête du monde. Pas de modèle.
Et du coup, ton rapport aussi à, ben, à Marseille, tu nous disais que t'étais marseillaise à la base, après t'es partie. Maintenant, ton rapport à Marseille, c'est quoi?
Mon rapport à Marseille, c'est ma ville, c'est ma ville d'amour, quoi, de cœur, de, j'allais dire de naissance évidemment, mais je suis très contente d'être partie. Je parle ici 10 ans exactement, et je pense que c'était nécessaire, et je pense qu'on est pas mal à l'avoir fait, et je crois que, enfin en tout cas pour ma part, c'était vraiment nécessaire pour que je suis partie en 2010 quand même, donc il y a 16 ans. Quand même pas tout à fait la même ambiance. Il n'y avait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Mais j'avais besoin de partir voir ailleurs, voir d'autres choses. Mais quand même, assez rapidement, j'avais besoin de repartir pour savoir ce que j'avais.
Ce que tu aimais sur Marseille.
Ouais, ce que j'aimais et la chance qu'on avait, en fait. Parce que, typiquement, je suis arrivée donc, à Paris. Je suis restée 7 ans à Paris. Et les premières années, quand je revenais, on va dire une fois tous les 2 mois, je revenais un week-end, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Mais les premières fois, vraiment, je n'arrivais pas à l'identifier. J'étouffe un peu à Paris, c'est cool, c'est hyper intéressant culturellement. L'école, j'étais en école d'art, donc c'est quand même hyper intéressant. L'ouverture d'esprit et tout à là-bas, c'est incroyable. Puis quand je revenais à Marseille, je soufflais un peu, tu vois, j'avais un peu cette bouffée d'air. Et je faisais quelque chose de manière assez mécanique, dont je me suis rendu compte plus tard. J'allais systématiquement sur la corniche, voir la mer. Et je prenais ma voiture comme ça, et je faisais le tour comme ça de la corniche. J'arrivais par les Catalans jusqu'au David, et puis je repartais vers chez moi. Et je me dis, ouais, en fait, là, ça y est, j'ai plus mon bol d'air, quoi. Et en fait, la mer, il y a un vrai rapport à la mer. J'écris beaucoup sur la mer, sur la sensation... sur l'horizon, sur l'horizon que ça donne, de la possibilité, l'ouverture des possibles en fait que ça procure. Puis qui dit la mer dit aussi les îles, dit aussi la jetée, tout le vocabulaire qui est autour de la mer. J'aime beaucoup les environnements qui ont un vocabulaire particulier, parce que je trouve ça assez beau. Tu vois la jetée, les amers, un amer en mer, c'est tout ce qui donne, c'est tout ce que quand tu es sur la mer, c'est tous tes points de référence géographiques qui donnent un point de repère. Ça s'appelle un amer. Enfin, tu vois, c'est un mot. Je trouve ça se compte, c'est un mot. Et le mot est assez beau. Pareil, en même temps, quelque chose d'amer, c'est pas très agréable, mais finalement, l'ambivalence dans ce mot-là, ouais, c'est chouette. Et puis Marseille, c'est une ville qui est brute. C'est une ville qui s'apprivoise et qui s'adopte vraiment. Et on ne peut pas débarquer avec ses clics et ses claques, parce que sinon, on prend une claque, quoi. Elle vient pas de moi, cette phrase-là, mais ça avait un article qui avait été écrit, j'avais trouvé la punchline hyper bonne. Donc, je me l'approprie, mais elle est clairement pas de moi. Mais donc, voilà, il y a quand même quelque chose de... Elle a du caractère, elle a de la force, et moi, elle m'impressionne, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a un fort caractère. Je suis plutôt dans la diplomatie et je suis bélier, mais je suis plutôt un mouton tout doux, un bélier avec des cornes. Et donc, pour ça, elle m'inspire beaucoup, parce qu'elle est caractérielle. Et ça, j'adore. J'adore. Et du coup, pour faire un lien aussi avec mes projets et photos, quand je suis rentrée à Marseille, je me suis demandé comment je pouvais prendre en photo une ville dans laquelle je suis née, que que je connais par cœur, mais qui en même temps est aussi beaucoup médiatisé, en bien ou en mal, bon, de plus en plus en bien, heureusement, mais, et qui est beaucoup vu aussi pour visiter, j'allais dire plutôt pour ses clichés, ou en tout cas pour ses endroits un peu carte postale. Et j'avais envie de me demander, voilà, comment, en revenant ici, je pouvais prendre en photo cette ville-là avec mon bagage à moi de ben, « je suis partie, je suis allée faire mes armes un peu ailleurs et qu'est-ce que je viens retrouver dans cette ville-là » et en même temps sans faire des clichés cartes postales de ces images qu'on a vues 100 fois. Et voilà. Et donc, j'ai fait tout un projet qui est encore en cours, qui s'appelle Marseille hors série. Et je m'occupe de... En fait, je vais à chaque fois dans des quartiers, dans des lieux dits différents de Marseille. C'est pas du tout fini, hein. Je commence à peine, mais j'ai une vingtaine d'images quand même, déjà. Et j'essaie de prendre des images de points, d'endroits qui sont très iconiques, mais avec toujours un détail de ces endroits-là qui représenterait pour moi, en fait, Marseille.
D'accord.
Les photos, on les reconnaît pas forcément au premier abord. Mais en fait, quand on regarde bien les détails, on se rend compte que c'est à Marseille. Et j'aime bien cette idée que la photographie, ça fait aussi voyager. Dans ce sens-là, c'est un peu, moi j'ai vu d'autres choses. Et donc, je viens un peu remettre ce que j'ai vu dans ce que je vis au quotidien. Et j'aime bien cette espèce de double lecture des endroits qui me font penser à d'autres endroits. C'est la démarche que j'avais eue quand je suis arrivée à Amsterdam, en me disant, pareil, comment ne pas faire un cliché de cette ville qui est hyper prise en photo et surtout qui peut avoir une image qui n'est pas vraiment celle qu'on vit tous les jours. Et ben, je l'ai refait à Marseille et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, ça me fait aussi découvrir des endroits à Marseille que je ne connais pas forcément. Enfin, ça, tu vois, à la fois, je suis allée prendre des photos à la gare. Et ben, en fait, il est hyper beau ce parvis de la gare avec ses statues, ses horloges. Et en fait, ça fait des images, on dirait quasiment, ça pourrait être Palerme. En Sicile, ça pourrait être Palma à Majorque. Enfin, vraiment, c'est à Notre-Dame-de-la-Garde, pareil. J'y suis allée plusieurs fois et qui était plutôt pour une commande. J'ai fait une collaboration avec une agence immobilière qui s'appelle MRF Immobilier et c'est un peu elle qui m'a insufflé. Je dois rendre à César ce qui était à César, qui m'a un peu insufflé cette idée-là. Et donc par la suite, j'ai continué à le développer. Et vraiment, c'est vrai. C'était exactement ça. Je me suis dit en fait ce qu'on a sous les yeux, mais qu'on regarde plus. Et c'est un peu cette idée de ce projet-là, d'aller prendre en photo tout ce qui existe. Et puis, parce que Marseille, c'est pas que le 7e, Andoum, les Catalans, exactement. Et Malmousque, c'est quand même plein d'autres choses. Et je trouve ça chouette que de montrer d'autres choses, quoi.
C'est un tout, c'est des villages, c'est des ambiances. 3-4 arrêts de métro.
Ouais.
Là, tu te retrouves.
Ouais, puis c'est dans les histoires aussi. C'est des histoires, je me suis un peu penchée sur les histoires, tu vois, des îles, pourquoi elles s'appelaient comme ça, trucs comme ça. Et en fait, c'est assez intéressant de se plonger un peu aussi dans l'histoire de la ville qui a été aussi architecturalement très façonnée.
Exactement.
Et sur ça.
Donc du coup, voilà, ça, ce serait ton nouveau projet, mais tu l'imagines comment ? Est-ce que tu l'imagines faire un livre ? Est-ce que tu imagines partir sur une expo et après voir un peu de par cette expo en faire un outil.
Pour l'instant, ces premières images-là, elles sont exposées chez Lily, pour le coup, le restaurant qui est le bar à hôtel qui est en face de la gare Faces. Et donc l'expo, je vais l'accueillir chez Faces dans les mois qui arrivent aussi. Peut-être un livre, ce serait une assez bonne idée. Généralement, pour quand je fais un livre sur un projet, il me faut un peu de temps pour le penser et tout ça. Mais en tout cas, de toute façon, j'adore faire les livres que je fais. Je les auto-édite parce que j'ai envie de garder un peu le contrôle. Enfin, en tout cas, j'ai surtout envie de faire l'objet que j'ai dans la tête.
Ça va la faire.
Exactement. Je veux être sûre qu'il soit comme ça. C'est pour ça que je lui ai fait l'auto-édition. Et puis, je trouve ça hyper intéressant d'aller un peu plus loin aussi dans la mise en page. Aussi, qu'est-ce que c'était de concevoir l'objet comme un tout. Donc pourquoi pas sur le livre sur Marseille dans cette
année. Ah bien, super. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé à Sort les murs là. C'est vrai que de rencontrer comme ça des femmes avec des parcours quand même qui sont assez extraordinaires. Et puis bon, il faut quand même soulever que tu es aussi maman de jumelles. Justement, avant qu'on termine l'émission, Comment tu gères tout ça? Parce que oui, dans l'idée, comme tu disais tout à l'heure, de se mettre toutes les semaines, un après-midi, partir, ça, c'est l'idéal. Sauf que dans la vraie vie, de maman, on ne peut jamais prévoir. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai appris à ne plus prévoir pour ne plus jamais être déçue et frustrée. Donc, comment tu arrives à te retrouver, pas ni en tant que compagne de, ni en tant que mère de, ni en tant qu'artiste, en fait, au final. Parce qu'il y a quand même ces besoins, je trouve, là, quand on est maman, de se retrouver à ne rien penser. Il y a cette charge mentale. Je pense qu'il y a une énorme charge mentale de ton travail aussi. Parce qu'on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais quand même, c'est un lieu qui commence à vraiment être reconnu, à être de plus en plus dynamique, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau international. Qui dit international, dit toute la logistique, dit toutes les expos, les vernissages qui vont se... Donc, comment tu te retrouves dans ça? Comment tu t'épargnes, on va dire?
J'essaie d'être très organisée. Je pense être quelqu'un d'à peu près organisé et d'avoir un agenda auquel je me tiens. Et vraiment, je fais très attention à ce que ma partie à la galerie n'empiète pas sur ma partie à moi. Parce que moi, j'ai quand même mon activité. Je suis photographe, je travaille avec des entreprises. En plus de ma partie artistique, j'ai quand même aussi cette activité B2B et commerciale avec les entreprises qui est importante, qui est là. Et donc, j'essaie de cloisonner les choses. Ça ne marche pas tout le temps. Mais on va dire que j'essaie de le faire au mieux. Et j'essaie toujours de faire de mon mieux. Et que j'ai relu un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Les accords Toltec. Et que, essayer de faire de son mieux, ça vaut pour tout. Ça vaut pour les enfants, ça vaut pour notre vie de couple. Ça vaut pour notre vie, ma vie de travail. Notre vie à la galerie, puisqu'on travaille aussi en couple. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment une super aventure. Entre couple et entre amis d'ailleurs, parce qu'on est quand même deux couples fondateurs et aussi amis. Donc, quand on se voit en dehors, on essaie de pas trop parler boulot, mais on parle toujours boulot. Mais en même temps, c'est un projet qui est tellement enivrant que en fait, on en parle parce qu'on a aussi envie d'en parler. Donc c'est ok.
Oui, passion commune.
Exactement. Ah, c'est exactement. Et en tout cas, je fais très attention à cloisonner ma vie privée, professionnelle. Et j'ai pour le coup mon partenaire de vie est très fort là-dedans aussi parce qu'il m'aide beaucoup, il me soutient énormément et c'est un vrai moteur même dans mon activité de photographe et sur la galerie. Mais j'ai la chance d'avoir ce soutien-là qui n'est pas du tout négligeable, qui est également ce soutien-là que j'ai dans la vie privée, hein, une aide énormément avec les filles. Et on est une équipe, on est vraiment une équipe.
C'est ce que j'allais dire. Je pense que la parentalité, c'est vraiment un travail d'équipe.
Complètement. Et franchement, on ne peut pas l'envisager, surtout en ayant eu deux enfants d'un coup, on ne peut pas l'envisager autrement que une équipe. Et c'est quelque chose que nous, on fait au moins une fois par semaine. On mange tous les deux, on se pose ensemble en disant, OK, en fait, on ne parle pas enfant. Ou en tout cas, on se rattrape sur des sujets en se disant, OK, voilà, on réajuste un peu les curseurs. En fait, je pense que la vie est faite de curseurs et qu'il ne faut pas laisser s'emballer. Il faut un peu rattraper tout le temps. Donc, il faut un peu contrôler tout ça. Et puis, de temps en temps, laisser un peu les curseurs s'emballer parce que c'est aussi la vie, c'est aussi comme ça. Et qu'artistiquement parlant, moi, si je contrôle tous les curseurs, il ne passera non plus. Donc, j'ai aussi besoin de me laisser des espaces où je sais que j'ai de quoi... laisser emballer un curseur et que voilà tout ça en étant organisé comme ça qu'on fonctionne, mais après voilà, j'ai pas de recette miracle.
Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur Astragal. Avant qu'on se quitte, la question qu'on pose à toutes les invitées, bon, tu connais le mot maintenant, le pourquoi de Astragal, donc je te demande à toi, est-ce que tu te considères Astragal ou pas Astragal?
Ouais, je pense.
Je pense que oui,
je pense aussi. Ouais, ouais, et puis c'est en fait, il y a quand même cette histoire de, tu vois, je te disais, de, J'ai un moment fui ce que je suis revenue chercher en courant. Et puis, je pense qu'on est des plantes endémiques nous-mêmes de Marseille, quoi.
Je ne te le fais pas dire. Sur ces mots magnifiques, encore merci. On remercie la radio Fréquence Mistral de nous permettre d'avoir ce podcast-là.
Et puis, à bientôt.
Ouais, et merci encore d'être venu jusqu'à moi.